d'insurrection.
Cette manière de dire,
c'est un devoir parler.
Moi, quand il parle de ça, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose.
Intercession. À bout de souffle. Entretien avec Frédéric Nera. Publié Fantasme de la communauté absolue, lien et déliaison, image hors l'image, surexposé, le monde, le capital, la terre, l'indemne, Heidegger et la destruction du monde. Biopolitique des catastrophes. Instruction pour une prise d'âme, Artaud et l'envoûtement occidental. Son dernier ouvrage s'intitule Le terrorisme, la tentation de l'abîme. Sous la pluie et les cimes sauvages.
Biopolitique, immunopolitique, éco-politique, cosmopolitique. Les noms prolifèrent, comme si la politique ne pouvait plus aujourd'hui être pensée sans un trait d'union. On sait bien que l'objet, les agents, les causes et les fins de la politique ont subi d'importants déplacements au cours du XXe siècle, au point qu'en certains ont pu croire que la politique allait disparaissant, ce que nous ne pensons pas. Il nous faut seulement visualiser ces changements, car ils sont multiples. Ils touchent toutes les sphères de l'existence, et pas seulement la politique, qu'on aurait tort d'envisager comme un domaine séparé des autres régions de l'être.
En finir avec le jugement,
la présence d'un trait d'union
c'est en finir
a sans doute au moins cette vertu,
le corps mal fait de l'être humain,
obligé à repenser
avec l'être humain,
des connexions que la modernité avait cru évincer.
Son caca avec l'être humain et
la politique n'est plus seule.
Et la fausse conscience qui lui est attachée.
L'être non plus.
L'infime
son caca. Son savoir.
Le néant qui n'est pas, mais s'avance sous la forme de morpion. Dieu. La bombe M.
Le bel infini.
La guerre unilatérale.
Le néant qui
ses
n'est
dommages
pas,
collatéraux.
Mais s'avance sous la forme de morpion.
La paix qu'on nous fiche.
Dieu.
Le remplacement de la
bombe
nature.
M. La guerre unilatérale et ses dommages collatéraux.
L'être fixé.
La paix qu'on nous fiche.
Cela fait beaucoup.
Le remplacement de la nature.
Il y a de quoi parler.
L'enfance qu'on ne laisse pas être. L'être fixé. Cela fait beaucoup. Et il y a de quoi parler. D'envoûtement.
Du mot envoûtement, parce que quel est cet usage de termes en philosophie pour ce qui est de domaines qui relèvent de l'objet économique ou politique? Qu'est-ce que ça veut dire finalement utiliser un mot comme envoûtement? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire, puisque finalement c'était à l'occasion du livre sur Artaud que j'emploie comme quelque chose qui tend vers un concept, le terme de conjuration. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ailleurs parler de société de clairvoyance? Il y a un certain registre de langage. Et d'abord, enfin je dirais maintenant, après coup, maintenant, là où j'en suis, ici et maintenant, parce que je parle de là, d'abord il y a une forme d'intervention langagière dans la philosophie. Et peut-être dans le domaine de la politique, qui consiste à se situer à un endroit où les mots sont pas encore cuits, sous la forme du concept. Le terme d'envoûtement, si je le place dans ce registre, hein, dans une économie générale de l'écriture, le terme d'envoûtement ne peut pas tout de suite être capturé comme un concept, je crois. On ne peut pas dire, je sais pas, que l'envoûtement c'est un mot qu'on peut utiliser comme, je sais pas, comme devenir, comme conscience, comme bon, parce qu'il maintient une charge métaphorique. Il maintient une charge métaphorique, c'est qu'il est en lui-même un rappel, puisqu'il s'inscrit quand même, pour moi, dans un travail philosophique, il est un rappel de la formule nietzschéenne selon laquelle les concepts sont des résidus de métaphores. Bon. Donc il se veut être un entre-deux ou un espace intermédiaire qui en appelle au concept, mais qui ne s'y réduit pas. Et maintenant, je parle aussi, pour définir ça, pour définir ce type de mots ou de formules dans lesquelles ça peut s'encadrer, de propositions spéculaires. Là aussi, le spéculaire en question, c'est pas le spéculatif. C'est encore un mot qui est bas, c'est encore un mot qui est interlope, c'est encore un mot qui est intermédiaire, non fini. Voilà. Proposition, d'ailleurs, ça résonne avec des choses qui peuvent venir de Stenger. Ce mot de proposition, je l'ai lu, je l'ai capturé dans le corps du langage d'Isabelle Stenger. Mais la proposition spéculaire ou ce type de vocabulaire tend au concept, mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas parce qu'il est bon aussi de ne pas trop savoir. Hein, en ce moment, on doit être dans un moment de relance dans la pensée, dans la politique, un moment de relance comme on l'a, justement comme on l'a jamais imaginé, ce qui est normal, puisqu'on ne prévoit pas, le futur. Mais ce moment de relance dans la pensée, dans la politique, dans les institutions, exige un langage qui soit à la mesure de ça. Et un moment de relance qui ne soit pas non plus exactement comme ont été lancés certains manifestes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, je crois, relancer quelque chose à la hauteur d'un langage qui manifeste une nécessité de changement, sans pour autant reconduire les formes sous lesquelles ces manifestes ont pu être faits dans l'histoire, dans ces moments donnés où il s'agissait de relancer. Je prends juste un exemple pour dire comment je me situe dans ce moment de relance-là. On s'éloigne de l'envoûtement, mais en tout cas, on ne s'éloigne pas, je crois, du registre de parole. Je crois que si on ne dit pas ça, sinon, si on prend le manifeste futuriste là, de Marinetti, 1906, quelque chose comme ça, 1904, je ne sais plus la date exacte, il faudrait revoir, à peu près ça, 1904, 1906. Bon. On parle toujours du programme, c'est-à-dire on commence à parler de Marinetti quand il lance ses points un par un, de façon programmatique. Et on oublie, ce qui frappe toujours, c'est qu'on oublie que le manifeste de Marinetti est précédé par une diction. Il y a une diction inaugurale, il y a un récit, il y a un accident, là je crois que ça renvoie, je n'ai plus le texte en tête, hein, ça renvoie à un truc autobiographique, lui-même il y a un accident de voiture, je crois, Marinetti, il a dû avoir une conversion dans sa voiture retournée, tel Paul. Mais il y a une diction inaugurale en fait, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas, il faut relancer la machine programmatique implique de se souvenir qu'elle ne peut être vitale, efficace et véritablement ouvrante que si elle s'origine dans une forme de diction. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect, disons général, économie générale du langage à un moment de nécessité de relance conceptuelle. Si maintenant on en vient au terme, alors non plus sur un axe général, mais pour le terme d'envoûtement lui-même, ce terme d'abord, bien entendu, il vient d'Artaud, c'est-à-dire il vient d'un mot dans son économie de pensée propre. Hein, c'est-à-dire que ce terme, je ne l'invente pas, il est là, il a une fonction. Il a une fonction sans doute aussi pour lui, pour dire quelque chose qu'il ne peut pas dire. Donc il est clair qu'on n'est pas non plus au niveau du concept, mais on est quand même dans une économie du concept. Il s'agit bel et bien de penser, il s'agit de rendre compte de quelque chose, de rendre compte de quelque chose avec une pensée stricte, logique. Artaud est, il y a une logique formidable de son discours. Ce n'est pas une logique froide, c'est une logique au sens où il s'agit d'un logos, il s'agit d'une parole qui tend à rendre raison. Hein, en sachant bien que le mot raison, c'est pas. Hein, le principe de raison, c'est pas le principe d'identité. Hein, il ne s'agit pas de. Au contraire, le principe de raison, c'est rendre raison qu'il y ait quelque chose, rendre raison du fait qu'il y a quelque chose et non pas rien. C'est ça, le principe de raison, c'est pas un truc terrifiant, au contraire, c'est une des seules façons de rendre compte. Dans un discours qu'il y ait quelque chose et non pas rien à cet endroit où quelque chose est advenu. Alors l'envoûtement, c'est la tentative pour Artaud de rendre compte de ce qu'il échappe fondamentalement et qu'il y arrive. Il manque de mots pour dire ce qui lui arrive. Et ce qui lui arrive est terrible. Ce qui lui arrive est terrible parce que ce qui lui arrive est une dépossession radicale de son existence. Et une dépossession radicale de son existence qui en même temps renvoie à une dimension politique. Sa propre dépossession n'est pas qu'une affaire personnelle, elle est à un endroit l'affaire de tous. Tout du moins, à un endroit, elle est l'affaire, on va dire, de l'Occident, du capitalisme, de la colonisation, de ce que j'appellerais maintenant la religion majoritaire, je dirais plus monothéiste, je dirais religion majoritaire, parce que les choses sont compliquées par rapport à la religion, c'est pas si simple, les choses. Et l'envoûtement se trouve au point de jonction incroyable d'une dépossession individuelle et d'une dépossession collective. Et ce mot, voilà, il est dans cette jonction-là. Et penser l'envoûtement, c'est penser pour Artaud ce à quoi il a eu affaire, sans l'enfermer dans sa propre trajectoire. Ce qui veut dire que le mot d'envoûtement, en dernière analyse, est un mot politique, et c'est un mot qui montre que la souffrance, la dépossession, n'est jamais qu'une question individuelle. Je ne veux pas dire que ce soit une question qui soit réductible, d'ailleurs, au collectif, mais qu'elle n'est jamais simplement ça. Alors après, troisièmement, je pourrais rentrer dans encore une fois, à me rapprocher au fur et à mesure de ce que c'est que l'envoûtement. C'est un endroit où ça manque de mots. L'envoûtement vient à un endroit où ça manque de mots. Mais radicalement, puisque ce mot vient à un endroit où il y a un impensé, alors je vais avec le terme un peu, on parlait de l'impensé, c'est une facilité aussi, hein, parce que l'impensé, penser l'impensé, etc. Mais n'empêche qu'il y a bien quelque chose comme ça, une forclusion, qui se prend dans la figure parce qu'elle est la forclusion même de l'Occident. Ce terme vient tenter de dire quelque chose de cette forclusion. Cette forclusion de l'Occident. Et au bout du compte, même si l'appareillage d'Artaud consiste à charger les monothéismes, le capitalisme, ce qui m'est apparu de plus en plus, c'était que c'était la colonisation, hein, qui était l'objet de sa charge. et de sa décharge. Parce qu'il se sent colonisé. Il se sent colonisé comme peuvent l'être des peuples colonisés. Et comme est dénié quelque chose dans l'acte de colonisation lui-même, dénié radicalement, lui-même est la surface enregistreuse de ce qui n'est pas enregistré, de la colonisation occidentale, sur laquelle l'Occident se fonde, sur laquelle la Révolution française se fonde. On n'en a pas du tout fini de rendre compte du rapport entre l'Occident et la colonisation. On n'en a pas du tout fini actuellement avec même pas le postcolonial, l'hypercolonial, c'est-à-dire, j'aime pas trop le mot hyper, c'est trop facile, c'est une facilité de langage, mais on n'a pas encore fait le tour de la façon dont les fondements de l'Occident sont coloniaux. Quand on sait par exemple que la Révolution française elle-même est rendue possible, c'est une évidence, mais en fait, il faut quand même le rappeler, par l'argent colonial, on voit bien que même ce qui peut nous sembler à nous de l'ordre d'une fierté nationale ne sort pas indemne de cette interrogation sur l'impensée occidentale. Alors la colonisation, se sentir colonisé, c'est Artaud le traduit du silence sous la forme d'une tentative d'explication économique de ce que c'est qu'être le trésor de la valeur. Il le dit, il le dit économiquement, dans une économie politique. Il le dit sous la forme de ce que c'est qu'être escroqué. On peut entendre comme on veut. Et il définit, il décrit en se situant lui-même comme étant le centre de la valeur, il décrit ce phénomène de création de plus-value, de création de valeur. D'où vient la valeur? D'une escroquerie fondamentale dont son corps est le centre. Et ce qui peut paraître délirant, c'est-à-dire le délire, ça serait de qu'est-ce que c'est que se situer soi-même au centre de l'escroquerie. Mais finalement, on se rend compte qu'il ne fait que dire le réel de l'escroquerie qui touche au corps. Qui touche au corps, il y a toujours une main mise sur les corps. Si on entend bien par corps, quelque chose qui n'est pas séparable du cerveau, si on entend bien par corps, le corps dans son entier. Et donc la création de valeur. Et après tout, Artaud aura pu créer, là où ça semblait impensable, une possibilité de saisir le sens de ce qu'est encore l'Occident.
Alors les bêtes l'ont mangé, ce ne fut pas un viol, il s'est prêté à l'obscène retard, il y a trouvé du goût, il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite, et la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaule du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes, descendue d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps clouée, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
Bombe M, de la religion monothéiste, et microbienne. Alors, il y a toute une un passage qui m'a beaucoup frappé quant au devenir microbien de Dieu. Donc, Arthaud ne serait moins un antéchrist que quelqu'un qui crève la croix pour ouvrir la possibilité de nouveaux croisements. Qu'est-ce que c'est que ce passage, la verticalité à l'horizontalité? Et comment est-ce que dans la philosophie contemporaine, ce passage s'est traduit en termes d'infinitisation, chez Badiou ou Deleuze, par exemple. Immanentisation de l'infini, mais qui peut-être ne prend pas assez garde, bon, qu'est-ce qu'on est pour dire ça, voilà, mais en tout cas le champ est ouvert à la problématique, ne prend pas assez soin de conjurer la mauvaise immanence. Ce que vous appelez déjà depuis longtemps la mauvaise immanence du capitalisme, notamment, qui se traduit en tout cas en termes capitalistiques.
On est bien d'accord, quand on est bouleversé par un auteur, j'étais bouleversé finalement par Arthaud, comme j'avais été par Wittgenstein, par quelques autres, mais sans doute eux, la justice qu'on peut leur rendre est toujours de prendre un parti pris absolu pour l'auteur dont on parle. Sinon, on est dans la position du petit malin, hein, le petit malin qui profite, et qui profite pour le coup du corps d'Arthaud, donc qui en rajoute une couche sur l'exploitation. Donc c'est très dur de parler d'Arthaud parce que abonder dans son sens, il faut toujours savoir, c'est quelqu'un qui oblige sans arrêt à hésiter sur l'acte de lecture qu'on peut avoir parce que même abonder dans son sens est encore une façon de profiter de lui. Et ne pas abonder dans son sens est une façon de le maintenir dans son exploitation. Donc il y a une espèce de double contrainte dont on ne peut pas se débarrasser. Il y a un endroit où... Et même ça, ce que je viens de dire, je peux le reporter à l'infini, comme dans, disons, le symptôme Bashkiri ou le symptôme des miroirs qui se reflètent eux-mêmes, parce que ma position n'est pas non plus une bonne position. Il y a un très beau passage dans le final de l'homme nu de Claude Lévi-Strauss, dans les mythologiques, où il indique cette impossibilité même pour la subjectivité de pouvoir trouver la bonne place. Il n'y a pas de bonne place, et un Arthaud est quelqu'un qui nous le rappelle. Bon. Alors... rentrer, donc essayer de trouver cette position, c'est quand même accompagner sa logique, et accompagner sa logique, c'est effectivement accompagner sa machine de destruction de toute transcendance. Là, on n'a pas été plus loin, ça va plus loin que ça, d'à mon avis, pour différentes raisons, même si on a pu continuer, bien entendu, hein, l'écriture contemporaine a pu mettre en axe que c'est que cette l'attitude horizontale du texte. La bombe M, donc c'est effectivement, comme vous le dites, une façon de tenter de donner le sténogramme des dangers de la transcendance majoritaire, micrologique. Et puis je ne sais plus quoi encore, enfin en tout cas cette initiale venait pour fonction de concentrer quelque chose dans le texte. Dans cette destruction de la transcendance, effectivement, quand on détruit absolument toute transcendance, on en arrive au fourmillement, c'est-à-dire on en arrive à la pulvérisation. Cette pulvérisation, c'est ce à quoi il a affaire, lui, en fait, Arthaud. Et il s'agit d'en rendre compte, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'aller à ce point de destruction qui en même temps est aussi un effet de la bombe M. C'est compliqué, c'est que c'est bien ça qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que les deux vont ensemble, c'est-à-dire la transcendance et ça. Donc il s'agit effectivement de trouver une troisième voie, quelque chose qui serait au final ni cette forme d'infinitisation par le bas, ni la forme d'infini par le haut. Au bout du compte, la sortie d'Artaud, pour moi, consiste à ne pas en rester là. Mais dans le Artaud, quand je suis dans le Artaud, je suis là. Voilà. Et c'est normal, je crois. Sinon, on conjure trop vite. On dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou, quoi. C'est très drôle, parce que vous savez qu'il écrit lui-même ça, hein, cette « Liez-moi si vous voulez ». Bon. Donc dire, mais vous êtes fou, monsieur Artaud, c'est comme si je disais que cette feuille était verte, c'est-à-dire que c'est une... on n'a pas fait un pas, voire on a fait un pas de recul hein, dans les conjurations précipitées, dans les conjurations qui ne s'effectuent pas au bon moment. Alors oui, Artaud nous oblige à penser ce que pourrait être une bonne immanence.
Avec tes yeux, emmené par les flics dans une ambulance, avec tes yeux, ligoté sur la table d'opération, avec tes yeux de pancréas amputé, avec tes yeux d'appendicite, avec tes yeux d'avortement, avec tes yeux d'ovaire enlevé, avec tes yeux d'électrochoc, avec tes yeux de lobotomie, avec tes yeux de divorcé, avec tes yeux coup de sang, avec tes yeux solitaires, avec tes yeux, avec tes yeux, avec ta mort couverte de fleurs.
Allen Ginsberg.
Il faut repartir du constat contemporain. C'est-à-dire, il faut repartir, je crois, de l'idée selon laquelle tout le monde dit que Dieu est mort. C'est fait. C'est réglé, c'est plié, ou c'est déplié plutôt, infiniment déplié, infiniment plat. Que la transcendance, il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de valeurs, voilà, les valeurs transcendantes, destruction des, abolition des valeurs transcendantes. Alors ce à quoi je ne crois pas du tout, voilà, c'est ma construction actuelle, c'est de dire que, d'où l'intérêt d'Antonin Artaud, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'on est dans un monde dans lequel la transcendance est immergée dans l'immanence. Ce que dans les premiers textes j'ai appelé l'immanence saturée, la mauvaise immanence, celle que nous construisons, parce que c'est pas on, hein, trop facile, que nous construisons aussi, on n'est pas totalement hors du monde, on est participant de quelque chose, en mangeant, en parlant. Et ce que j'appelle l'immanence saturée, maintenant si je devais expliquer ça, c'est l'immanence qui contient en elle la transcendance, c'est-à-dire c'est la transcendance rapprochée. Donc on continue à construire de la transcendance. On continue à croire dans la transcendance, on continue à avoir des pratiques et des façons d'être et de vivre et de penser. Alors c'est important de dire ça parce que ça veut dire que déjà c'est... Alors après il faudrait que je démontre ça, mais enfin voilà, ce serait un peu le décor disons général. On est dans une forme d'immanence absolue. Le monde, pour moi, est spinoziste. Il n'est pas deleuzien. Et pour moi, Deleuze, ce n'est pas Spinoza. Je distingue Deleuze de Spinoza. Deleuze a fait une drôle d'opération sur Spinoza qui rend, à mon avis, parfois difficile de comprendre Spinoza. Je pense que l'opération deleuzienne, consistant à couper la tête de l'éthique, le premier livre, cette coupure, comme parfois quand on tranche une tête, Ne touche pas au corps, c'est-à-dire laisse proliférer, ou laisse reconstituer, ou laisse se constituer encore exactement ce dont on avait tranché la tête. Trancher la tête ne suffit pas à métaboliser quelque chose de nouveau. Hein, c'est comme trancher la tête d'un roi. Si on remplace un roi par un autre corps souverain, on maintient en place sa souveraineté. Il n'y a pas effectivement de modification sans remétabolisation de l'ensemble des paramètres. Voilà. Et je dis qu'on est dans l'immanence absolue de Spinozzi, ça veut dire que on a du mal à sortir et qu'on continue encore à s'écouler à l'intérieur. C'est Agamben, dans un texte consacré à Deleuze, sur un texte que Agamben avait consacré à l'immanence une vie, c'est un très très beau texte, définit l'immanence comme il reprend en fait, je crois, enfin je n'ai pas vérifié, les formules de Deleuze, c'est tout simple, s'écouler à l'intérieur. Toute création s'écoule encore à l'intérieur, ce qui pour moi est l'effroi. Ce qui pour peut-être pour certains est joie et effroi, je peux l'entendre, mais pour moi c'est quand même pas. C'est quand même très très problématique parce qu'on continue à faire s'écouler la transcendance à l'intérieur de l'immanence. L'immanence absolue, c'est simplement la poursuite de la transcendance dans tous les plis de l'immanence. Et c'est pour ça que je dis contre, par exemple, quelqu'un comme Miyasuk, qui est un grand penseur, certainement, qui a écrit un livre qui s'appelle « Après la finitude ». Je pense qu'on est avant la finitude. Hein, qu'on n'est pas du tout, on n'a absolument pas... on n'aura pas vécu encore sur le mode de la finitude, qui pour moi n'a rien à voir avec le consentement à la mort morte, le consentement au nihilisme. On n'est pas dans le nihilisme, on est au contraire dans une création de valeur permanente qui réinsuffle de la transcendance à tout va. Badiou, pour moi, est quelqu'un qui maintient ce mouvement-là. Alors, il le maintient, pensant lui s'opposer au nihilisme, il a besoin de remettre de la transcendance là où pour moi elle est complètement encore présente. Donc forcément, il y a un problème. Il y a un problème. La bonne immanence, je reprends des formules que j'avais trouvées chez Nancy, au fond chez Bataille. La bonne immanence, c'est l'immanence déchirée. Je vois pas toute pensée qui... ne tient pas sur la déchirure fondamentale de l'existence, me semble une pensée insuffisante. Alors après, il y a plein de façons de faire circuler la déchirure. Par exemple, je veux dire comme des choses comme ça. Isabelle Stengers fait circuler la déchirure comme une sorte de... Enfin, je veux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est juste, mais comme un pare-brise qui aurait reçu une grosse pierre et qui se fendillerait, vous savez, mais qui craque pas. Et je suis rendu compte que dans sa parole, dans son écriture, et cette fêlure peut-être, cette déchirure n'est pas du tout un terme que je pense qu'on pourrait lire chez elle, peut-être fêlure à cause de Deleuze, je ne sais pas, mais cette fêlure est toujours présente en fait. Rien ne se raccommode. Rien ne sera accommode ou rien ne se raccommode. Hein, on peut... Alors, il y a différentes modalités, il n'y en a pas qu'une, mais faire passer la déchirure quelque part, ou la fêlure, ou l'asymétrie, l'apostrophe, me semble nécessaire. Tout ce qui symétrise, absolument, et c'est encore c'est de la fausse immanence. La bonne immanence, c'est... c'est simple, c'est l'être au monde. Hein. La bonne immanence, c'est l'être au monde. C'est être ici, là où nous sommes, par exemple, ici et maintenant. Encore qu'en parlant, forcément, j'ai une tendance à oublier, mais en même temps, je suis bien là, en train de vous parler. Et je suis pas. Je suis en moi parce qu'il y a un enregistrement. Donc cet enregistrement me renvoie en moi-même, à un endroit, puisque j'essaierai d'écrire ce que je suis en train de dire, ce qui est impossible. Mais en même temps, je suis bien en dehors aussi, parce que je n'aurais pas été renvoyé en moi-même. S'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait proposé de faire cet enregistrement. Et en parlant, non pas en général, même si j'essaie d'écrire ce que je dis pour quelqu'un que je ne connais pas, en même temps, je suis aussi hors de moi parce que je parle bien à quelqu'un aussi qui est en face de moi et qui me propose quelque chose et qui sélectionne ce qui lui sont apparus comme pour lui-même des zones d'intensité dans ce que j'ai pu essayer d'écrire. Et donc être au monde, l'immanence est être au monde, ça veut dire ne jamais être qu'en soi. C'est pour ça qu'être au monde, c'est forcément sortir de soi, mais sortir de soi, ça ne veut pas dire être au dehors, ou alors le dehors, c'est le monde. On sait bien que le dehors c'est le monde, il n'y a pas ça va mal, on sait bien que le dehors c'est le monde. Le dehors c'est là où je suis. Quand ça va mal et que je tiens justement à pouvoir fermer tous les volets, c'est que je sais bien que si le monde s'expérimente comme dehors. Et c'est ce qu'on ne sait pas encore, je crois. Et c'est parce qu'on ne sait pas encore que le monde c'est le dehors qu'on va chercher d'autres dehors. Même si, bien entendu, il faut, parce qu'on ne le sait pas, proposer, par exemple dans la poésie, parce qu'il y a une proposition majeure de ça, dans la poésie, au sens vraiment le plus large, hein, je pourrais dire. Art, je ne sais pas quel mot conviendrait maintenant, je m'intéresse beaucoup à la poésie en ce moment, je replonge dans la poésie. Même si la poésie est le lieu qui va proposer une vraie vie, qui est ailleurs, hein, comme on sait bien, parce que justement, tout est empêché dans cette vie-là pour qu'on puisse vraiment être ici déjà, au dehors. Hein, mais la proposition de l'autre vie n'a qu'une seule fonction, c'est d'enfin pouvoir la vivre ici et maintenant. On pense à Rimbaud, on pense toute la vie de Rimbaud, c'est ça, c'est cette tentative-là, quoi, tentative avortée et tentative en même temps finie aussi, finie au sens là où elle a eu lieu. Et on peut lire Artaud à un moment donné en expérimentant, ici et maintenant, non pas que nous sommes éternels, mais que nous sommes au monde.
D'un côté, on vit dans la société, en l'occurrence une tribu. Hein, on vit dans la tribu. On a une fonction dans la tribu. On a un nom tribal. Mais tout le monde est invité, pas seulement le chaman qui pousse ça jusqu'au paroxysme, jusqu'aux limites, mais tout le monde, homme ou femme, est invité à sortir de la tribu, du groupe social, pendant un moment, pour aller dans la forêt, pour aller sur la montagne, pour aller dans le désert, et là, pour entrer en contact, non pas avec la société, mais avec l'univers. On va changer de nom. La personne, par exemple une femme, qui, dans la tribu, va s'appeler Anne-Marie, par exemple, elle va aller dans la forêt, dans le désert, sur la montagne, et là, elle va changer de nom, elle va s'appeler, c'est elle qui va se donner un nom secret, un nom cosmique, si je puis dire. Pas un nom social, mais un nom cosmique. Elle va s'appeler celle qui a senti le vent dans ses cheveux, par exemple. Celle qui a senti la pluie sur son visage. Et elle va revenir dans le groupe social, hein, mais avec cet autre espace dans sa tête. Et à mon avis, elle fonctionnera encore mieux dans le groupe social avec cet autre espace. Elle sera beaucoup plus souple, la personne. Tandis que si on reste trop longtemps confiné dans un contexte sur-socialisé, eh bien, le résultat, c'est soit le confinement et le dépérissement, soit l'explosion.
D'une certaine manière, on ne peut pas faire autrement que s'avancer. L'être humain ne peut pas faire autrement si l'on accepte l'idée selon laquelle il n'y a pas d'essence humaine biologiquement constituée, et que l'être humain n'est pas seulement un être vivant, mais qu'il existe au sens étymologique du terme, qu'il est hors de lui, comme Bataille ou Heidegger se sont évertués à le dire, chacun à leur manière. Bataille sous la catégorie de l'extase ou de l'expérience d'un hors de soi originaire touchant la communauté elle-même, ou bien Heidegger lui-même reprenant à son compte le concept d'existence pour montrer qu'il n'y a pas d'être humain en tant que tel, si ce n'est à l'intérieur d'un monde qui le précède. Or, être hors de soi, c'est être au sens propre projeté. Et nous sommes toujours déjà, originellement, en tant qu'être dit humain, dans cette projection. Il n'y a pas d'abord l'humanité, puis la projection de cette humanité. Il y a toujours l'humanité se projetant comme humanité. Et j'insiste ici sur le « comme », sur cette fiction instituante à partir de laquelle on peut dire qu'il y a ou qu'il peut y avoir ou qu'il y aura encore de l'humanité. Ne disons même pas « il y aura de l'humanité ». Parlons bien au présent. Disons que par la fiction, il y a humanité. Je ne parle pas ici en termes d'avenir, je parle de ce qui se forme au présent. Je dis qu'exister, c'est se projeter ici et maintenant, et que la projection doit s'entendre au présent. Je m'avance, donc je suis, mais je ne fais que suivre cet être qui s'avance. Devancer au présent, l'être dit humain est une anticipation qui marche, une tête chercheuse à la recherche d'un
d'être
corps
dans le monde, à jouir de ce que c'est. C'est en résonance avec vos travaux. Sauterdijk dit, oui, c'est très très bien, il y a une tentative de construire le là. Mais Heidegger met trop vite le Dasein dans une piscine trop grande. C'est ce qu'il dit.
Oui, c'est très juste.
Il s'agirait de pluraliser le concept de monde, et il parle lui-même d'être dans les sphères. C'est une invitation, une invite à construire. Vous n'avez pas encore de... pas encore. Vous n'avez pas de mot fétiche à cet égard. Peut-être une territoriologie, une matériologie de la finitude, cosmopolitique. Il s'agit de pluraliser ce concept d'être au monde et de créer de nouvelles communications entre ces sphères. Comment est-ce que c'est ?
Oui, oui, vous dites très très bien, non mais c'est-à-dire, il y a des textes de Sloterdijk, je ne sais plus où c'est, qui m'avaient beaucoup plu, sur le fait de... L'être au monde, bien entendu, c'est le risque d'affronter le néant, le dehors irrespirable qui serait ici. Et toute existence, mais je crois aussi toute existence animale, est confrontée à cette possibilité-là. C'est-à-dire la possibilité que, que la naissance ne soit qu'exposition au néant. C'est pour ça que l'être au monde réalisé, c'est-à-dire fini, implique une habitation, un territoire, des marques, des routines, des déplacements répétés. Être au monde se distingue d'être dans le néant si et seulement si je peux habiter. Habiter, ça peut vouloir dire plein de choses. On peut habiter un livre. Certains juifs habitent le livre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pas forcément un état. On peut habiter une toute petite pièce, on peut habiter différents lieux, des lieux d'hiver et des lieux d'été, comme des nomades. On peut habiter... je ne sais pas, la question c'est sans doute architecturale, et les sphères signifient simplement qu'être au monde ne signifie pas être exposé au néant, et qu'être au monde implique un certain nombre de surfaces d'accueil. Et quand je dis surface d'accueil, ça veut dire des intermédiaires, les mots peuvent dire des intermédiaires, des surfaces d'accueil, et celles de filtrage également, de sélection, de ce que je ne veux pas, de ce que je veux, et les sphères, ce sont des... je prendrai uniquement ce point-là, il y a, comme vous savez aussi bien que moi, toute une sphérologie, là j'en parlerai pas, mais la sphère c'est simplement un lieu d'habitation du monde. Et le problème, et là on tombe dans les questions les plus redoutables, c'est que pour me protéger du néant, pour être capable de vivre avec le néant, je peux, on peut, nous pouvons créer des protections qui vont elles-mêmes recréer du néant. On commence à rentrer. Quand je dis que c'est des problèmes les plus redoutables, c'est que les solutions que nous inventons pour vivre s'avèrent parfois des problèmes plus redoutables que les problèmes qu'on était censé conjurer avec ces solutions. Et donc les sphères peuvent, les sphères d'habitation peuvent devenir des bunkers, des nautilus sans intermittence, des satellites, etc. Donc des sphères qui, au fond, n'auront jamais été capables de métaboliser le néant puisqu'elles le laissent au dehors. Et donc elles n'inventent pas à ce moment-là quelque chose qui compose avec le fait que nous sommes éphémères, enfin... Et alors là, par rapport au terme d'enchevêtrement dont vous parliez tout à l'heure, dont vous me parliez, l'enchevêtrement va signifier effectivement que les bonnes sphères ne sont pas des sphères autistes, mais sont des sphères qui sont dans des formes de relations. La relation est encore une fois l'être au monde, encore un autre nom pour ça. Et l'enchevêtrement signifiant qu'il n'existe pas d'atome absolu, Ça n'existe pas, en fait. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si on fait exister, on nie l'existence. Si on fait exister l'atome absolu, on nie ce que c'est que l'existence. On rend impossible d'être au monde. Et par rapport au terme fétiche, comme vous disiez, à une époque, c'est vrai que j'avais parlé d'insulation cosmologique, hein, pour essayer de définir... mais c'était peut-être pas... je ne dis pas que c'est suffisant, puisque insulation cosmologique, ça... On m'a dit, oui, mais alors là, vous supposez d'abord l'insulation, donc l'atome, puis vous rajoutez des relations. Bon, d'accord, d'accord. Alors, ça va pas. Mais si on dit insulation, si on dit que l'insulation, finalement, est un processus, hein, qui est mieux peut-être qu'insularité, peut-être j'avais proposé insularité cosmopolitique, je ne sais plus maintenant. Mais c'était une tentative, encore une fois, cette expression pour conjoint, pour dire, voilà, il faut penser les deux, hein, qu'il n'y a de bonne insulation que me mettant hors de moi-même. Mais le pur hors de soi, bien entendu, n'est pas viable longtemps. On peut être hors de soi, bon, c'est bien quand même que après, quand on va revenir, le retour peut être tragique ou difficile.
Il n'est aucune vie possible sans protection. Et les protections sont bonnes lorsqu'elles sont intégrées à des processus d'auto-organisation où s'enchevêtrent les existences, à des processus constituants qui étendent le domaine du commun. Ce que les discours d'émancipation critiquent à fort juste titre, c'est ce qu'on pourrait nommer la capture discursive de la protection par certains États,
à partir du moment où tu as désinvesti
certains groupes politiques
ou religieux. Les connexions multiples. Tous les investissements,
mais ils en tirent la conclusion erronée selon laquelle toute protection serait en soi massive. Et pourtant, quel discours critique serait possible sans protection des conditions même de son énonciation? Lorsque règne la persécution, ne faut-il pas trouver, inventer des refuges, écrire et renforcer un droit d'asile? Et on dénoncerait l'existence des refuges. Et l'on s'en prendrait à la tolérance. Telle serait notre double contrainte, à la fois ontologique et politique. Double bind à laquelle la globalisation semble nous condamner. Il faut des refuges. Il n'en faut pas. Il faut des protections. Il n'en faut pas.
Vous disiez que...
Parataxe.
Il s'agirait... de se protéger de deux opérations très dangereuses dans la pensée heideggerienne, qui est l'attente du sauveur et la surprotection d'un indemne.
Je me souviens quand j'écrivais ce texte, j'avais vu un film Land of Freedom d'un anglais dont le nom ne me revient pas maintenant, mais ça va revenir, et donc qui parle du franquisme et de la façon dont les partis communistes, donc la façon dont l'URSS a fait en sorte de rendre impossible toute formation révolutionnaire en Espagne. Et donc a écrasé, a rendu à désarmer et écrasé les anarchistes. Et se dit en passant, ce qui veut dire que pour moi, toute personne qui cite Staline d'un point de vue soi-disant communiste pour effrayer le bourgeois, me semble en deçà du fait que le stalinisme doit être... C'est pas drôle, Staline, c'est pas drôle, non pas simplement par rapport au goulag, parce qu'on dit, ah oui d'accord, mais alors les gens ont peur du totalitarisme, etc., donc ah, oulala, donc je vais parler de Staline pour faire peur aux bourgeois, mais la question n'est pas là, la question est de l'autre côté, la question c'est que Staline c'est l'écrasement de tout élan révolutionnaire, on le sait bien, et puis on pourrait parler de 68, etc., des accords de Grenelle, enfin on pourrait parler du parti communiste étant devenus, les partis communistes étant devenus des éléments anti-révolutionnaires, je sais pas qu'ils l'ont toujours été, enfin pendant la seconde partie du XXe siècle quand même, ça a été désastreux. Il n'empêche que, en écrivant sur Heidegger, je voyais ce film, et je me disais, mais bon sang, mais pourquoi je suis en train d'écrire sur ce Heidegger quand même, quoi, il y a quelque chose de dégoûtant, hein, chez Heidegger. Et donc j'ai failli abandonner, je me disais, mais il faut que je brûle tout, qu'est-ce que c'est que ça, autant aller du côté, justement, tout de suite, de ces formations empêchées. Et pourtant, ce monsieur impossible dit mieux que tout autre un certain nombre de choses qui engagent la philosophie tout entière et des nécessités de penser pour notre temps. Donc il fallait que je me confronte à ça et que j'aille pour moi-même déjà au bout de ce que je pouvais en faire. Et ce que je pouvais en faire, c'était de voir là-dedans ce qui pouvait me faire penser, ce que je pouvais rejeter. Et donc tout ce livre est conçu sur le mode d'une division finale, c'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre quasiment, en tout cas je laisse entendre où je dis, qu'il y a un endroit où il y a une ligne que j'essaie de trouver, une ligne dangereuse, parce que c'est toujours pareil, hein. On est toujours la question du petit malin dont je parlais pour Artaud, je peux en parler pour Heidegger, le petit malin qui, oui mais alors voilà, Heidegger s'arrête là, mais moi par contre, non c'est pas ça, c'est à l'intérieur même de sa pensée, il essaie de trouver des ressources contre lui-même, ça c'était plus intéressant, la division est intérieure, elle n'est pas diabolique, elle est interne à quelque chose, à une pensée. Ça, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait d'expérimenter. Et d'expérimenter pour le coup, en essayant de trouver cette ligne de partage, le fêlure encore une fois, entre là où je ne suis pas, là où il ne faut pas le suivre, et là où il y a des ressources encore à exploiter, des ressources à exploiter, de toute façon étant affreuse, ce que je disais tout à l'heure sur Artaud, mais enfin voilà, c'est dit, le colonialisme est dans nos têtes, bien entendu. La question se posait, de savoir si on pouvait à partir de là construire une politique, mais dans ce dispositif dont je parle. Après, cette parce que, effectivement, comme vous le disiez, la question c'est pas celle du nazisme. Mais je dis bien là-dedans que la chasse aux nazis, il n'y a pas de problème pour moi. Là, il faut. Enfin, il ne s'agit pas d'aucune. Facilité à avoir, aucun blanc-seing à donner, la justice doit encore avoir lieu par rapport aux nazis, mais la question c'était pas de faire un procès pour nazis, c'était de voir dans cette opération-là si on pouvait repenser autrement la question politique. Et par rapport à ça, puisque sans arrêt je refuse le partage finalement politique-ontologie, je refuse une certaine modernité et une certaine autonomisation de la politique, considérant qu'elle ne doit pas être seule, être isolée. J'interrogeais la place de l'être dans la politique. Or, il m'est apparu que Heidegger, mais sans doute aussi la métaphysique tout entière, a une tendance profonde à isoler une part indemne de l'être. Et je vois dans cette isolation, alors là pour le coup bien entendu, quelque chose qui sera rattaché au nazisme. Mais je ne voulais pas le dire comme ça, parce que je ne voulais pas, ce n'était pas le but de faire un livre pour dénoncer le nazisme de Heidegger. Ça a été fait très bien par d'autres gens. Je n'ai rien à dire là-dessus de moi. Il faut dire Philippe Lacollabarre, il faut dire Jean-Luc Nancy et d'autres. Ils ont fait le boulot, c'est bon, c'est fait. À un moment donné, il faut lire, apprendre. Voilà. Bon, après, ou bien après on dit le dossier est clos, ou bien on le réouvre, mais avec dans ce cas-là une tentative de penser autrement. Et l'indemne est donc la mauvaise part bénite de l'être qui rend possible toutes les indifférences par rapport au monde. La question du sauveur, elle est corrélée à la question de l'indemne. Le sauveur, c'est l'émanation de la part bénite de l'être. Et donc les deux, effectivement, pour moi, sont dangereux, puisque, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on dit sauveur, dès qu'on dit indemne, on est encore dans ce déni d'existence. Et on est encore dans le sacrifice d'Artaud, de le suicide d'Artaud. Tant qu'il y aura cet indemne-là, en tout cas, cet indemne, c'est-à-dire cette construction d'une part de l'être qui s'accepte de toute relation ou de tout enchevêtrement au point de rendre possible la destruction des existences et du monde, Artaud sera suicidé.
Tant que l'on considérera que ce monde pressé par la terre n'est qu'un monde pour l'homme, les autres formes de vie seront toujours considérées comme quantités négligeables, bonnes pour les camps de concentration de l'agroalimentaire ou les soins palliatifs de nos solitudes urbaines, les animaux domestiques. Tant que sera maintenu le paradigme qui fait de l'information le cœur du vivant, un cœur éternel logé dans une chair périssable, on pourra continuer à le pirater, le breveter et l'isoler des contextes sociaux qui, seuls, sont capables de le faire fructifier. La grande erreur, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule sorte d'immanence. C'est de croire que la communication signifie la fin de la séparation. Rien n'est plus faux. Et Debord l'avait parfaitement repéré dans la société du spectacle. Nous ne séparons plus ce monde d'un autre monde. Nous faisons circuler la séparation à même le monde. Non pas au-delà, mais partout. Au cœur des choses. Contre cette immanence-là, nous en appelons à une remise en cause des paradigmes humanistes, informatifs, écotechniques. Une remise en cause des clivages qui n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais été autant internalisés. C'est pour cela que la nouvelle image de l'être que nous proposons, c'est une image des relations. Relations multiples, parfois coupées, composant un monde sans unité, assez chaotique. Relations qui imposent d'étendre le domaine de la communauté au-delà de la sphère humaine. Non pour inclure les non-humains. Le modèle dominant de la biopolitique sait parfaitement inclure. Mais pour transformer le domaine du commun et modifier notre définition de la politique. Un célèbre essayiste mass-médiatique affirme qu'il ne faut plus transformer le monde, mais sauver la planète. C'est précisément ce genre d'énoncé qu'il nous faut combattre. Parce que l'on ne sauvera rien sans tout transformer.
Malgré ça
à supposer d'ailleurs
tentative de sortir de l'humanisme et de la métaphysique. Vous dites vraiment qu'il faut partir,
théologie,
s'il s'agit de penser l'humanisme, stratégiquement, il faudrait stratégiquement passer par un anti-humanisme corrosif, comme disait Foucault, pour peut-être arriver à un post-humanisme à Heidegger, ce concept de Dasein, opposé à l'animalité, qui serait pauvre en monde, reste quand même engoncé dans un humanisme encore odieux. C'est peut-être un bon tremplin pour parler de votre travail sur la possibilité de rentrer dans l'homme pour en sortir, de sortir de l'homme pour rentrer différemment, voilà. C'est-à-dire que l'homme n'est pas indemne, sous peine de court-circuit auto-immune.
Ah, c'est exactement ça. J'ai hésité à un moment donné entre effectivement et là vous restituez des éléments qui viennent de ce livre, parce que c'est vrai que j'ai eu cette tentation d'aller directement à une pensée du post-humanisme. pas du post-humain, mais du post-humanisme. Bon. Pour sortir tout de suite, justement, pour aller tout de suite en direction d'un dehors. Bon. Mais j'ai considéré, à tort ou à raison, que c'était là pour le coup, encore une fois, une précipitation qui emporterait avec elle ce mouvement qui consisterait à penser, promouvoir, vivre. Parce que pour être un post-humanisme, me semblait faire l'économie d'une destruction préalable, d'une critique préalable de l'humanisme, non achevé. D'où la nécessité pour moi de centrer ce que je faisais à un moment donné, et c'est toujours présent, sur un nouvel anti-humanisme. Pour aboutir à je ne sais quoi, mais certainement pas pour me précipiter vers le post-humanisme. Mais c'est pas un rejet, cette position-là, mais c'est il y a un temps à prendre avant ça. On sait que l'anti-humanisme a été un mot d'ordre pour un certain nombre de penseurs dans les années 60. Lévi-Strauss au premier chef, notre premier deep ecologiste, on a mis beaucoup de temps à le comprendre, on commence à le comprendre, en France, puisque le structuralisme des structures élémentaires de la parenté rendait sans doute impossible d'entendre ce qu'a dit Lévi-Strauss au fur et à mesure de ses élaborations, et ce qu'a mis en évidence quelqu'un comme Patrice Manillier, que je découvre en ce moment, élaboration qui a consisté à s'arracher lui-même au modèle qu'il avait mis en place dans les structures élémentaires de la parenté, c'est-à-dire un modèle de l'arrachement à la nature. Et en fait, il est revenu, En tout cas, il semblerait qu'il ait évolué par rapport à ça. Je ne pourrais pas en parler, je suis dedans. Mais l'anti-humanisme étant simplement l'étape nécessaire, de même qu'il y a à continuer une critique de la transcendance dans l'immanence, la transcendance entourée d'une résine dans l'immanence, il y a à élaborer, à continuer, à reprendre, à nouveau frais, une critique de l'humanisme. Mais là où on a eu un anti-humanisme de la structure, il faut penser maintenant à un anti-humanisme en relation. Voilà, c'est toujours un peu cette idée-là. Et l'anti-humanisme en relation signifie sortir du domaine de l'homme. Dans les textes de Foucault, sur l'anti-humanisme, le dehors est toujours un dehors de l'humain. Hein. Et tous ces penseurs-là, en fait, sont encore dans une tentative de penser le dehors interne à l'humain, et donc c'est pour ça que j'ai pu écrire ou dire que ce dehors était encore le dehors de l'homme. Mais si je dis par exemple avec Malcolm de Chazal le chemin le plus court de l'homme à l'homme et l'univers, il est clair que là on change de dimension. Alors, on change de dimension poétiquement, mais ça n'empêche pas de construire ça aussi dans la pensée ou dans la philosophie. Qu'est-ce que c'est effectivement qu'une interrogation fondamentale sur l'humanisme comme, pour continuer sur la question de l'indemne, comme construction d'une sphère autiste vis-à-vis d'une nature considérée comme déchet. Donc voilà, ce serait cet anti-humanisme-là qui m'intéresse d'élaborer encore aujourd'hui, parce que la politique, y compris celle qui se veut la plus radicale, est encore humaniste. Il faudrait déployer ça longuement, mais il n'est pas certain que le concept de peuple soit autre chose qu'un concept humaniste. Il ne s'agit pas de dire que toute... Jamais je dis ça. Je suis dans un champ de pensée, c'est-à-dire que c'est de l'intérieur d'un champ de pensée que je parle. Je ne parle pas... En général, au-dessus du sol, la philosophie est déjà assez atopique pour ça, c'est pas la peine d'en rajouter une couche, en parlant au-dessus même du langage que je supposais que j'emploie. Mais je veux dire en cela qu'il y a des révoltes populaires, il ne s'agit pas de critiquer les... Voilà, c'est pas ça, c'est juste interroger à un certain endroit une limite donnée au concept même de la politique. Anti-humanisme signifiant que la souveraineté du peuple. Et encore troisième registre, peut être une façon de relayer l'indemnité dont je traite à partir d'un concept qui vient de Derrida. Celui qui parlait de pulsion de l'indème, ça m'avait vraiment éclaté à la figure dans Faut et Savoir, cette utilisation de ce concept de pulsion de l'indème, qui me semble assez importante, aussi importante pour que j'essaye actuellement, par exemple, de repenser même la question des pulsions à partir d'un système ternaire. Non pas uniquement pulsion de vie, pulsion de mort, mais pulsion de vie, pulsion de mort, pulsion de l'indème. Ça change quand même pas mal les choses, de proposer cette troisième catégorie de pulsions qui est à la fois ni Eros ni Thanatos, ou Eros et Thanatos, toujours. Hein. Dès qu'on rajoute un troisième terme, on est toujours dans cette transgression du tiers exclu, où il y a de la pensée, où on s'essaye à penser. Et donc les pulsions de l'indème, c'est celles qui ont lieu dans l'humanisme. L'humanisme est une traduction des pulsions de l'indème pour moi. Donc faire une critique de l'humanisme aujourd'hui, c'est conjurer cette pulsion à l'indemnité de l'homme vis-à-vis de là où il est, ou de là où il n'est pas. Il y a un très beau livre qui vient de publier là, donc, de Viveros de Castro, anthropologue, qui est le plus beau livre anti-humaniste que j'ai lu depuis fort longtemps. Il fait vraiment ce que moi j'attends, hein, c'est-à-dire ce que je ne ferai jamais, puisqu'il je ne suis pas anthropologue et que voilà. Mais il l'a fait, c'est-à-dire il permet de saisir l'humanisme occidental à partir de la pensée indienne comme ce qui fait de l'humain une simple possibilité de l'ensemble des personnes, le concept de personne dépassant, enfin disons, engageant, intégrant ce que nous on appellerait hommes et animaux, l'humain n'étant qu'une possibilité de la personne. Ça c'est pas mal. Là on a vraiment quelque chose qui... on a un coup de bélier, disons, dans la forteresse humaniste. Et c'est ça dont je repartirai. Pour le coup, lire l'anthropologie, lire Descola ou lire Viveros de Castro, c'est comprendre que, par exemple, lorsque Alain Badiou, dans l'éthique, dit que la subjectivation est arrachement à l'animalité, il est dans le schéma décrit par Descola, le schéma occidental, j'ai oublié le nom de ce schéma, alors c'est le schéma naturaliste, hein, c'est ça, qui consiste à poser une physicalité commune et une distinction seconde, parce que lui, ce qu'il appellera subjectivation. Mais ce qu'il apparaît à Badiou comme étant une opposition totale à l'ère du temps est une confirmation absolue du schéma occidental. Physicalité commune, et, comment dit Scola, âme, esprit, je ne sais plus quel mot il emploie pour définir ce second. Voilà, c'est... Là où ça existe.
Voilà, et donc, supplément d'âme.
Voilà, supplément d'âme, voilà, secondaire. Mais c'est, nous sommes dedans. C'est la confirmation de notre schème, du schème auquel on a affaire majoritairement. Toujours pareil, parce que c'est pas que tout le monde pense comme ça, mais il s'agit d'un schème majoritaire auquel on a affaire. Donc c'est ce schème-là qu'il faut, je crois, critiquer. Et c'est pour ça qu'un post-humanisme, tout de suite exigé, tout de suite construit, risquerait de ne faire que poursuivre avec un cran supplémentaire ce schéma d'arrachement de la physicalité commune au supplément d'âme distinct et différencié.
J'ai choisi de retenir quatre modes d'identification. L'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme, et six modes de relation, l'échange, la prédation, le don, la production, la protection et la transmission, il faudrait, pour que le tableau soit complet, passer en revue les 24 figures que les combinaisons de modes autorisent. Ce serait pousser l'analogie avec la chimie et l'esprit de système au-delà du raisonnable. D'autant que certaines de ces combinaisons sont chimériques et n'existent que dans les territoires de l'utopie et les pages de la littérature d'anticipation, où leurs mélanges contradictoires font d'ailleurs merveille,
faire circuler un moment l'abîme, le fardeau à l'horizontale,
d'un réel trop prévisible.
Et non pas restituer, par ce terme, une verticalité, mettant un design hors d'atteinte, en exception du vivant. C'est en effet que l'abîme, que Heidegger localise entre le design et le reste du monde, tient sa condition de possibilité de l'inscription dans l'homme du pic du négatif, de la mort amante de l'être et de l'être thanatophilique. Or, faire circuler l'abîme, cela veut dire mettre au travail le négatif dans la pluralité des êtres, le faire varier, calculer son intensité au lieu de le définir a priori comme propre impropriété de l'homme.
Car le grand mensonge a été de faire de l'homme un organisme.
Car les êtres entre eux ne communiquent pas de la même façon, ne ressentent pas de la même façon, ne souffrent pas de la même façon. Deux êtres qui se ressemblent ne se ressemblent pas de manière identique.
Car c'était cela cet arbre humain qui marche, une volonté qui décide de soi à chaque instant.
Il y a bien des collectifs, mais certains le sont plus que d'autres. C'est une question de degré de communication, d'évaluation des messages, de qualité et de forme de silence, de pratique, de contrat. Proposons d'appeler collectif asymétrique de la Terre, ou communauté asymétrique du monde, ces multiplicités d'humains et de non-humains. Et demandons-nous ceci pour finir. Quelle politique pourrait correspondre à de tels collectifs ?
L'inconditionnalité. Vous entendez quelque part parler du fait que Derrida avait soigné dans son livre Voyou la souveraineté en lui retirant son inconditionnalité. Certes, c'est important, mais il y a un risque de reterritorialisation. Il s'agirait de disséminer cette inconditionnalité dans un pur régime d'immanence. On tourne toujours autour.
Oui.
L'immanence déchirée, reconstruite, qui nous permettrait de poser la question, qu'est-ce que signifierait être égaux et libres en plein désert.
Or, ce néant, ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose, c'est quelques-uns. Je dis quelques hommes, des bêtes sans volonté ni pensée propre, c'est-à-dire sans douleur propre, sans acceptation en eux de la volonté et d'une douleur propre, et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen de vivre que de falsifier l'humanité. Et de l'arbre-corps, mes volontés pures que nous étions, ont fait cet alambic à merde, ce tonneau de distillation fécale, cause de peste et de toutes les maladies. Et de ce côté de faiblesse hybride, de tare congénitale qui caractérise l'homme né. Un jour, l'homme était virulent. Il n'était que
par rapport à cette question-là, donc, de forme de subjectivité,
cela a passé
qui ne serait pas soumise simplement aux réquisites des pulsions indemnes, sachant que dans nos dispositifs, les pulsions de destruction elles-mêmes sont soumises aux pulsions indemnes. Enfin, elles sont soumises tant qu'elles ne sont pas reprises par Eros, elles sont soumises à l'indemne. Voilà. Je ne dis pas que toutes les pulsions de destruction sont sous le coup du réquisite de l'indemne, mais qu'en tout cas elles le sont majoritairement tant que rien ne vient les déplacer, tant qu'il n'y a pas d'autres propositions. Bon. Et
si on tente de repenser la subjectivité dans ce cadre-là, on pourrait croire que l'homme étant simplement le grand destructeur, ce que j'ai pu penser à un moment donné, il y a une sorte de conviction morale qui simplement exige de lui, pas simplement une castration, mais une annulation, c'est-à-dire coupable en définitive, conduisant à penser ce que vous rappeliez à l'instant, la possibilité d'un sujet faible, c'est-à-dire d'un sujet qui finalement simplement se déposséderait de lui-même.
Sortir des schèmes de virilité souveraine ne doit pas consister, à mon avis, à faire l'apologie d'un sujet faible, mais peut-être, au contraire, faire l'apologie d'un sujet puissant, car il n'y a rien de plus puissant qu'un sujet capable de conjurer en lui ou en elle ce qui est de l'ordre de la violence destructrice, ce qui est de l'ordre du mépris, ce qui est de l'ordre de tout ce qui peut être absolument en nous, absolument... vide et plein d'ordures. Donc je crois qu'il faut une sacrée puissance de rétention, une sacrée puissance de conjuration interne pour être capable de, voilà, dirais-je, de, par exemple, de métaboliser la négativité, de faire en sorte que les pulsions de mort ne soient pas dominantes. Donc le sujet dont je parle, qui conjurait sa propre souveraineté, est un sujet du côté des puissances de vie fondamentalement, mais des puissances de vie qui auraient intégré leur capacité à la destruction. Donc c'est une des puissances de vie qui en sert quelque chose de leur volonté d'indemnisation.
Ma proposition par rapport à ça serait de dire que qu'il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser, et qu'en vouloir s'en débarrasser, c'est justement maintenir et confirmer, accentuer les problèmes, hein, c'est-à-dire que si jamais je veux me débarrasser des pulsions de mort, je crains de m'en débarrasser en me débarrassant de moi-même, en les retournant contre moi-même, ce qui me semble bien entendu pas une bonne chose, et c'est plutôt Mazo, et plutôt, c'est tout Nietzsche combat ça par exemple, on va dire, comme ça. Alors, par rapport à ça, il s'agit encore une fois de métaboliser quelque chose, un fixe, comme ils disent en anglais, c'est une solution provisoire, hein, voilà, un montage, un machin. Et la machinerie pourrait s'énoncer en disant conjurer en soi-même l'extrémité des pulsions de mort. Et par rapport à ça, il est bien clair qu'il ne s'agit pas tant de suicider le sujet que de lui reconnaître une puissance de conjuration interne. Il faut parfois de grandes forces pour ne pas. Quand je dis pour ne pas, c'est que j'aime bien cette idée de penser la puissance de ne pas, que j'ai d'ailleurs j'ai volé à Gamben, je crois, dans un livre sur Bartleby. La puissance de ne pas étant une puissance de rétention, une capacité de non-actualisation d'un certain nombre d'actions. Et je pense qu'on peut élargir ça, au-delà de la question de la subjectivité, à des sociétés qui ont du mal à retenir ou à se retenir, ou à se retenir là où il ne faudrait pas et se lâcher, là où il s'agirait de se lâcher, justement, elles ne le font pas. Je pense que la question des endroits où il s'agirait de lâcher des choses et des endroits où il s'agirait de ne pas les lâcher, ces modalités sont inversées. Il faut inversion de toutes les valeurs à cet endroit-là, il me semble. Hein. C'est pas simplement se retenir. Quoique la 16 est une bonne chose. On pense toujours que c'est une grosse erreur. On associe par exemple Nietzsche à un refus toute la 16. Pas du tout, ça dépend. Hein. Ça dépend pourquoi elle est faite, cette la 16. Si elle est mortifère, elle est dégueulasse. Si elle est dans un but de création, si elle est... au service d'Eros, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème sur la 16. Alors, la puissance de ne pas, c'est bel et bien une puissance, c'est-à-dire que c'est pas simplement, quand je dis rétention, c'est une façon de dire aussi, c'est une façon très bête de critiquer une forme de ce que Baudrillard aurait pu appeler une pornographie, hein, qui est pas du tout rattachée au film X, c'est une façon de laisser faire, voilà, pour le coup, de laisser faire tout ce qui est possible de faire, comme si il y avait cette idée de tout ce qui peut être fait est bon. Non, en fait, voilà, tout ce qui peut être fait n'est pas bon. Il y a une division à opérer, il y a une sélection, bon sang, à opérer là-dedans. Et c'est pour ça que dans ce livre sur Heidegger, je distinguais laisser faire et laisser être. Le laisser être étant un autre nom de la finitude, encore une fois. Il n'y a pas qu'un nom, justement, pour dire les choses. Et quand il n'y a qu'un seul nom, c'est que ça ne va pas. Comme envoûtement. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le dire. C'est parce qu'il n'y a qu'un nom, un nom commun, il y a un problème. Le laisser être, le laisser faire, c'est le déni de la finitude. C'est pas l'infini du tout. C'est le déni de la finitude, ça veut dire... C'est pour ça que je parlais de forçage à volonté, c'est-à-dire laisser faire, c'est une construction de la possibilité avec le fantasme que son actualisation pourrait être absolue. L'idée du laisser être, c'est quelque chose qui retient en soi cette actualisation absolue comme impossible. Ça veut dire que le laisser être, c'est encore une fois un nom de l'existence, c'est-à-dire c'est ce qui pourrait apparaître après un certain parcours dans l'existence d'une société ou pour un individu, un certain parcours de où il s'agit de lâcher un certain nombre de fausses maîtrises, contenir en soi quelque chose, ce n'est pas la maîtriser au sens de la maîtrise qui supposerait dominer, qui supposerait justement pouvoir simplement user de quelque chose à son propre service. Le laisser être, c'est ce qui arrive à la fin du livre de Pérec, Un homme qui dort, parce qu'il pleut en plus là. Et donc si on lit Un homme qui dort, qui est un de mes livres qu'on appelle un livre de chevet, c'est-à-dire un livre que je relis et un livre qui pour moi définit précisément ce que c'est que l'existence, eh bien on a un parcours de quelqu'un qui tente de maîtriser ce qui est immaîtrisable, et c'est un livre qui raconte un trajet initiatique, en fait, comme tous les trajets initiatiques, qui consiste à la fin à s'apercevoir que le seul mystère est qu'il n'y a pas de mystère. Le seul mystère est qu'il n'y a pas de mystère, ça veut dire que l'existence est le fait d'être dehors, sous un abribus, en attendant un bus sous la pluie. Voilà, et c'est ça. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que tout ce parcours revient à cet endroit-là. Le laisser-être, c'est ça. C'est ce point où on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Hein. Il y a dans les poches sont trouées définitivement. On n'a rien gagné si ce n'est qu'on s'est débarrassé de ce dont on voulait avoir la maîtrise. Et tout trajet initiatique, je crois, conduit à ça, le vrai trajet initiatique. Conduit bien entendu au fait que lorsqu'on soulève le voile d'Isis, si c'est bien Isis, en tout cas dans les disciples Assaïs par exemple de Novalis, hein, à la fin il y a une des fins possibles, dont avait parlé Philippe Lacoulabar, une des fins possibles de ce livre inachevé de Novalis, la fin de la quête, on soulève le voile, et d'ailleurs le voile, il y a le visage en fait, de Saïs, enfin, je sais plus, enfin j'ai plus en tête le texte, hein. La fin de la quête, c'est un retour, mais dans ce retour, on revient au point d'origine en tant que fendu, au point d'origine en tant qu'immaîtrisable. Et quand on en est là, ce que je me souhaite le plus tôt possible, eh bien on est au dehors, et donc on peut laisser être, c'est ça, cette expérience-là.
Car il est tout à fait possible d'envisager que les subjectivités puissent non pas seulement s'adapter passivement à la demande de flexibilité, mais se territorialiser de façon inventive sur de nouvelles durées immatérielles. Et il n'y a aucune raison valable pour simplement envisager la fin des subjectivations. Encore moins pour désirer le retour du durable et tangible, du sujet autonome et substantiel, pouvant faire en un coup d'œil le tour de ses propriétés. Encore faudrait-il qu'il nous en soit laissé le temps.
C'est une expérience, et c'est aussi un faire. Ça ne conduit pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ne rien faire. Extatiquement, mystiquement, les taoïstes auraient peut-être des choses.
Le ne rien faire, ça serait... Alors, ça dépend encore une fois, là, c'est ça, parce que vous dites, vous parlez de taoïsme, il est bien clair que là, il va falloir qu'on... pour le coup, on distingue entre différentes formes de non-agir et de non-faire. C'est-à-dire que le non-faire pour les taoïstes est le faire efficace. L'efficacité passe par le non-faire. Donc c'est un non-faire qui est extrêmement producteur. C'est la plus grande puissance qui soit possible. Mais l'exemple que je prenais à la fin du Heidegger, j'ai plus maintenant en tête qui, etc., quel personnage, mais... ce dont il s'agit de se retenir, par exemple, c'est de considérer qu'il soit possible de construire un barrage en s'opposant simplement à ce qui est, de laisser être. Ça veut dire à ce moment-là prendre acte d'un certain type de courant, de puissance existante. Et le non-agir signifie s'abstenir d'une action, d'un faire désastreux, d'abord. Le non-agir, c'est d'abord ça. C'est un endroit où, à cet endroit-là, je ne dois pas agir. De même que si je veux, dans un combat, et je ne suis vraiment pas spécialiste des combats, toucher mon adversaire, je devrais frapper là où il n'est pas. Sinon, là où, quand je frapperai là où il est, il gagnera plus personne, normalement. Sauf si l'autre est vraiment dans une forme de... pas de masochisme, de mobilité ou de surpuissance, enfin bon. Hein. Ce que je dis ne consiste pas à vouloir rendre compte de tout, hein, mais j'essaie de trouver un point là, tout à l'heure, dans ce qu'on dit, je crois que c'est le même point, il me semble, dont on parle. Donc, bien entendu, le laisser-être implique un monde et implique une façon de vivre. Hein. Et implique de faire avec, déjà. Faire avec. Laisser-être, c'est faire avec.
Coopération, composition, est-ce que vous auriez quelque chose à dire quant à l'opposition?
Si on prend, pour rentrer dans une question politique, si on prend un certain nombre d'affaires touchant la question du terrorisme et la question de la mise en place des continuums sécuritaires fondés sur la détection et la prévention de ce qui est nommé du nom de terroriste. Encore une fois ici, je vais encore faire mettre du délai, parce que dans quoi s'inscrivent les lois sécuritaires? Dans quoi elles s'inscrivent? L'hypothèse majoritaire des luttes nécessaires contre ce que prescrivent ces lois est d'identifier dans l'État quelque chose de répressif. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, je crois que l'idée que l'État simplement induit, provoque, etc., à la Foucault, je crois que ça ne me semble pas suffisant pour différentes raisons, mais juste mais insuffisant. Le problème, c'est qu'il y a de la répression. Je ne vois pas comment on pourrait nier ça. Mais pourquoi elle s'inscrit comme ça maintenant? Pourquoi, dans notre situation, on a besoin de repérer l'intention avant l'acte? Pourquoi il s'agit de faire en sorte que les lois antiterroristes puissent s'appliquer tendanciellement à n'importe qui? Pourquoi l'affaire de Tarnac? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'hypothèse me ramène aux questions d'écologie politique, si on entend bien que par écologie politique, on veut dire penser un ensemble des relations dans lesquelles s'inscrivent les êtres humains et ce qui n'est pas humain. Il se trouve que, à mon sens, ces dispositifs, accélérés dans les années 2000 et commencés dans les années 90, ont pour fonction de reconstruire une gouvernance, une forme de gouvernement des hommes, intégrée dans un savoir relatif au futur insurrection, aux futurs mouvements sociaux, aux futurs soulèvements qui adviendront et qui adviennent déjà liés à la destruction des conditions économico-écologiques de la planète. L'idée que je développe, pour faire bref, c'est que ces lois antiterroristes sont des mesures ayant pour fonction, alors c'est un peu délirant de dire ça, mais ont pour fonction de préparer les changements brutaux qui viendront et qui viennent déjà, liés aux pénuries en eau, liés au changement climatique, liés à la désertification, liés à la difficulté de plus en plus grande qu'on aura à produire des substances pour manger, puisqu'on a un appauvrissement de plus en plus important des sols et des terres, une infertilité grandissante. Mon idée, c'est que il ne s'agit pas de concertation. Je ne crois pas qu'il y ait un plan. Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais mon idée, ce n'est pas de penser en termes de concertation générale par année. Ce n'est pas la peine. Il y a tout simplement que les gens en face, vous voyez qu'on va retomber peut-être aussi à des choses sur lesquelles vous m'interrogiez, ces gens en face, les méchants, sont en même temps qu'ils le veuillent ou non ici. Ils ont affaire à cette détérioration des conditions de vie. Ils y ont affaire. Ils y répondent d'une façon en termes de sphère autiste, justement. Ils y répondent en termes de tentatives d'immunisation, pour eux-mêmes aussi, hein, d'indemnisation pour eux-mêmes. Mais ils y répondent aussi, dans une sorte de semi-cécité, par une refondation du droit. Tout ça pour dire que mon hypothèse est qu'on ne répondra à ces dispositifs liberticides qu'en interrogeant leurs fonctions dans une pensée des relations de l'humanité avec ce qu'elle n'est pas. Est-ce que c'est clair à peu près ce que je tente de dire là? Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors, à partir de là, je n'ai pas de leçon à donner sur les luttes. Moi, mon travail est un travail très partiel. J'occupe une petite place dans un dispositif, d'accord, hein? Faut bien penser ça, sinon tout ce que je dis n'a pas de sens. Ou un sens terrible, ou un sens vraiment dégoûtant. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est que sinon on ne comprendra pas, si on ne fait pas cette articulation à un endroit, ce sont des modalités que j'ignore encore, même si plein de gens se posent dans le monde entier, pas encore en France, on est en retard, les relations entre les luttes sociales et les luttes de l'écologie, même, j'ai envie de dire même, Michael Hart écrit des choses actuellement sur cette conjonction. Je dis même, parce que si on lit les textes de Negri et Hart, l'écologie n'existe pas. Bon. Alors, Negri apparemment continue à être dans cette non-pensée-là, mais Hart, lui, y est. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut penser. C'est tout, c'est ça qu'il faut penser. Ou faire. Mais ça se fait. Je sais que je disais des choses il y a quelque temps, là, les militants, les activistes en sont conscients de ça. Ils le savent. Hein. C'est, moi, ce que je dis n'est pas du tout un truc comme ça, isolé de ce qui se fait, de ce qui se fabrique. J'étais à Lausanne il y a quelques semaines et je parlais des questions de l'imaginaire, hein, des luttes de l'imaginaire, et sur la question de l'imaginaire en politique, en sachant pas ce que je disais, c'est-à-dire en sachant pas, toujours la question c'est qu'est-ce que je fais, quelle est la place de ce que je peux proposer. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en disant, bah, quand même, on est dedans sur la question de l'imaginaire, on est dedans, vous savez, donc oui, si, ça, bon, ça touche, hein, ça touche, donc tant mieux, parce que voilà. parce que je suis en relation, de fait, sans le savoir forcément, on ne sait pas toujours quand on est en relation, mais le fait qu'il y en a, elles se composent, elles se construisent. Donc les relations se construisent. Là, on ne l'attend pas, hein, bien entendu. Une relation, ce n'est pas quelque chose qui est en soi et qui est comme un cordon ombilical. Ça peut être aussi, hein, bien entendu, mais ce n'est pas forcément ça. Et donc, à partir de là, la question de l'ennemi ou de l'adversaire, c'est aussi quelque chose qui se construit. C'est-à-dire, bien entendu, le grand danger, ça serait de poser l'ennemi comme a priori. Alors là, effectivement, on est encore dans une procédure d'immunisation conceptuelle. On a déjà identifié auparavant... ce qui m'empêche pas de l'identifier. Alors, pour en venir à ça, l'ennemi est celui qui empêche d'exister. Voilà. C'est pas. Je peux le dire sans aucun problème. C'est la suite logique de ce que je dis, c'est-à-dire l'ennemi, celui qui empêche d'exister, par des lois liberticides, ou en construisant des centrales nucléaires. Et ce qui en fait les deux sont les mêmes, puisque construire des centrales nucléaires en France, c'est liberticide. Parce que, et je dis ça pas du tout par façon non métaphorique, quand je dis liberticide, ça veut dire que le nucléaire en France est un régime du secret, est un régime de construction et de reconstruction et de reproduction en France du phallus républicain, est une construction de la mise au secret, une construction qui consiste à interdire l'information. Donc on est, voilà, non métaphoriquement, c'est liberticide, non métaphoriquement. Voilà, donc l'ennemi, on peut le nommer, mais là aussi on doit faire attention, parce qu'une facilité là-dedans, une facilité de la nomination immédiate, qui, comme vous le disiez, qui en se posant tout de suite comme binaire, c'est pas le refus du binaire, le binaire, c'est une possibilité de la différence. Voilà. Donc, encore une fois ici, il ne s'agit pas de dire ah, le binaire est forcément mauvais. Non, il y a des moments où le binaire est bon. Mais encore une fois, il faut savoir en quel moment il est bon. Rejeter le binaire n'aurait pas de sens. Et à un moment donné, je parlais il y a peu de temps de la différence entre haine et détestation. En disant que la haine, bon, de façon très spinoziste, est mauvaise, toujours mauvaise, mais que la détestation peut être bonne. Si je déteste un mode de vie, je ne vais certainement pas me priver de le dire. Si je déteste quelqu'un au nom d'une image de ce que pourrait être une bonne vie, je ne vais certainement pas m'empêcher de détester. Mais autant la haine est un rapport d'objet confus et indistinct, autant la détestation est un rapport du sujet obscur et distinct, dirais-je. Donc il ne s'agit pas de s'empêcher, dans certains cas, d'être dans le binaire. Aucune raison de s'empêcher d'être là-dedans. Et s'empêcher complètement ça, serait rendre impossible un certain nombre de choses qui ont lieu dans l'histoire et de choses qui pourraient encore avoir lieu. L'opposition est une possibilité de la différence.
Cette politique a ainsi pour enjeu les conditions mêmes du vivant. Elle n'est plus comme dans son modèle classiste, limitée aux formes culturelles de vie humaine. La politique touche désormais une dimension que l'on avait jusqu'alors considérée comme infrapolitique ou non politique. Mais tel est le mouvement même de la politique que d'élargir sa scène et le nombre de ses acteurs. Encore que le terme de scène soit impropre, de même que la comparaison usée jusqu'à la corde avec le théâtre. À l'époque de l'écologie monde, de l'éco-politique globale, cette image est désormais sans aucune portée. On ne peut plus, et on ne doit plus, distinguer la scène de la salle des machines. D'autant plus que celle-ci produit des catastrophes. Dans la lettre sur l'humanisme, Heidegger, en lutte avec Sartre, pense l'agir à partir d'une éthique qui saurait faire résonner dans le terme d'éthos la question du séjour, du lieu d'habitation. ethos, désigne la région ouverte où l'homme habite. Aujourd'hui, l'éthique est politique, comme le bâtir. Il nous faut entendre Heidegger au pied de la lettre. Aussi jetée soit-elle, l'existence a besoin d'un toit.